1973 fut la plus belle des années. Vous voyez, immédiatement après la fête des Pins sans levain, ma femme et moi nous sommes mariés. Ce fut donc une très belle époque. Puis, après la Pentecôte, nous avons été envoyés en Afrique, dans ce qui était alors la Rhodésie, aujourd'hui le Zimbabwe. Et en tant que jeune homme, je m'occupais de tout. Des marais de l'Okavango au Botswana jusqu'à l'océan Indien. La moitié du Botswana, la moitié du Mozambique, toute la Rhodésie, et un peu plus au nord, le Malawi. C'était une époque formidable. Les gens se faisaient baptiser, nous avions beaucoup de demandes de visite, bien que nous ne les appelions pas ainsi à l'époque. Je me souviens de mon premier voyage au Malawi, nous avions littéralement triplé la taille de l'église. Elle est passée d'un membre à 3 membres à la suite d'une visite de baptême. C'était encourageant de voir cette croissance et ce développement. Juste avant la fête des trompettes, M. Raymond McNair et sa famille sont venus nous rendre visite alors qu'ils se rendaient en Afrique du Sud pour la fête des tabernacles, et ils passèrent quelques jours avec nous à ce qu'ils s'appelaient alors Salisbury. Ils étaient peut-être même là pour les trompettes. Nous avons eu de très bons moments ensemble. Mais il mentionna qu'un ministre important que je connaissais avait quitté l'église à Pasadena. Il avait quitté son emploi à l'église et avait quitté l'église tout court. En fait, les idées de cet homme firent partie de l'ensemble qui conduit à l'apostasie du début des années 90. Il est parti à ce moment-là avec une riposte particulière dont j'ai entendu parler. Il avait dit « Vous ne pouvez pas me prouver que la dîme est exigée dans le cadre de la Nouvelle Alliance. » C'était donc son problème à l'époque. Il y avait bien d'autres griefs, mais il était très attaché à la question de savoir qu'est-ce qui faisait partie de la Nouvelle Alliance. Mon but aujourd'hui n'est pas de parler directement de la dîme. Bien que, si Dieu le veut, un point subsidiaire de ce sermon ne vous laissera aucun doute quant à l'applicabilité de la dîme dans le cadre de la Nouvelle Alliance. Mais je veux aborder le sujet de la Nouvelle Alliance, parce que cet homme, comme tant d'autres, a commis une erreur fondamentale dans sa compréhension de l'ancienne et de la Nouvelle Alliance. Il a certainement commis beaucoup d'autres erreurs dans sa compréhension de la parole de Dieu, mais celle sur laquelle je veux me concentrer aujourd'hui est sa compréhension de l'ancienne et de la Nouvelle Alliance. Il ne s'agit pas d'un malentendu rare. M. Meredith a écrit des articles dans Le Monde de demain, soulignant que les 10 commandements ne faisaient pas simplement partie de l'ancienne alliance. Car, voyez-vous, les gens aiment faire comme Thomas Jefferson et créer une nouvelle alliance à leur goût, n'incluant que les choses qui leur conviennent. Alors, les 10 commandements, nous allons nous en débarrasser. La dîme, nous allons nous en débarrasser, et ainsi de suite. M. Meredith a donc dû se pencher sur la question. Et je sais très bien que M. appartient donna, il y a environ 20 ans, un sermon intitulé « Sommes-nous sous l'ancienne ou la nouvelle alliance ?» abordant certaines des questions qui se posent de temps à autre concernant la relation entre ces deux alliances. Il y a environ 10 ans, M. Ames donna un sermon intitulé « Pionnier de la nouvelle alliance ». Aujourd'hui, vous allez également participer un peu au sermon, car les placiers ont distribué une feuille de papier que vous pourrez remplir et mettre dans vos notes si vous le désirez. Peut-être voulez-vous en créer une vous-même, c'est très bien, mais en fait, nous avons suffisamment d'exemplaires pour les adultes de l'auditoire. Il n'est pas destiné aux enfants pour qu'ils jouent au tic-tac-toe. Nous le remplirons et nous aurons, si Dieu le veut, une certaine compréhension de ce sujet particulier. Nous sommes ici aujourd'hui en partie grâce à la fidélité d'un homme particulier connu sous le nom de Herbert W. Armstrong, un individu remarquable à bien des égards. Mais voyez-vous, notre père l'a appelé en raison, en partie, de ses antécédents et de ses capacités. Monsieur Armstrong avait grandi en tant que Quaker. Nous n'avons pas grand-chose à voir avec les Quakers, la société des amis, comme on les appelle. Ils ne nous sont peut-être pas tellement familiers, mais la caractéristique distinctive des Quakers est le fait qu'ils ne s'impliquaient pas dans les dogmes et la doctrine, comme le monde se réfère à la doctrine, soit des idées formant un credo relatif à une déclaration de croyance chrétienne ou d'une croyance religieuse. Ils sont décrits comme un groupe piétiste, ce qui signifie qu'ils étaient préoccupés par la piété, le comportement. C'est ainsi qu'ils sont devenus connus sous le nom de Société des Amis, lorsqu'ils furent établis au 18e siècle. Aujourd'hui, nous les appelons Quakers, et à l'origine, il s'agissait d'un terme péjoratif, une façon de les dénigrer. George Fox, leur fondateur, s'était retrouvé devant les tribunaux anglais au 18e siècle à cause de leurs croyances, et il déclara au juge que lui et les personnes qui l'accompagnaient étaient censés trembler, quake, à la parole de Dieu. Le juge a donc répondu avec désinvolture, « Oh, alors, vous êtes des Quakers, n'est-ce pas? » Et c'est de là que vient le terme, une insulte de la part du juge. Mais le nom est resté. Ce qui est important chez les Quakers, c'est qu'ils croyaient en leur relation avec les autres. C'est intéressant, M. Armstrong a grandi dans un milieu Quaker, ce qui signifie qu'il n'avait pas beaucoup de bagages religieux. Comme en aurait eu quelqu'un venant d'un milieu, disons, épiscopalien, catholique, presbytérien ou d'un autre groupe religieux principal. Ainsi, alors que M. Armstrong grandissait et se développait, une grande partie de ses écrits défiait les idées religieuses qui existaient dans le monde. Il était capable de lire la parole de Dieu d'un point de vue nouveau, sans être encombré par les idées des dénominations de ce monde. Il remettait donc en question les croyances acceptées par les églises. Bien sûr, il a dû se remettre lui-même en question. Dans un premier temps, il s'est demandé comment toutes ces choses pouvaient être erronées, mais après avoir étudié, il s'est rendu compte que tout le monde se trompait. Les gens ne suivent absolument pas la Bible. Ainsi, après avoir été mis au défi, il en est venu à prouver l'existence de Dieu et du sabbat. Le Père a pu l'utiliser pour remettre en question d'autres croyances auxquelles les gens adhéraient. Ainsi, M. Armstrong a écrit des brochures sur des sujets tels que la question des langues. Pourquoi? Parce que c'était la mode à l'époque. Ou combien de fois devrions-nous prendre le repas du Seigneur? Il y avait toute une série de brochures intitulées « Qu'entendez-vous par? » Et vous pouvez mettre le mot approprié par la suite « Qu'entendez-vous par la conversion? » « Qu'entendez-vous par la prédestination? » « Qu'entendez-vous par le salut? » etc. Il passait d'un sujet à l'autre, il mettait les gens au défi de comprendre, à partir de la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu disait vraiment sur un sujet particulier. Et c'est très important pour nous de le comprendre. Aujourd'hui, nous allons donc examiner, si je peux reprendre une phrase de M. Armstrong, « Qu'entendez-vous par l'ancienne et la nouvelle alliance? » Monsieur appartient dans son sermon sur la question de savoir si nous vivons sous l'ancienne ou la nouvelle alliance, s'est longuement attardé sur l'utilisation des mots anciens et nouveaux, et sur le fait que nous les avons ajoutés à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. Nous avons donc une certaine perception. Nous utilisons le terme Nouveau Testament. Pourquoi utilisons-nous le mot nouveau? Parce qu'il remplace l'ancien. L'ancien est dépassé, le nouveau est meilleur, pour ainsi dire. Monsieur Appartient souligna dans son sermon, et je l'ai certainement fait à maintes reprises, l'incroyable concept selon lequel ce que nous appelons l'Église primitive, l'Église apostolique, reçut la promesse du salut sans le Nouveau Testament. Parce qu'elle n'a pas eu de livre que nous pourrions classer comme étant le Nouveau Testament avant le milieu des années 60, et que même à ce temps, il lui manquait encore tous les écrits de Jean. On pourrait donc dire que nous nous trouvons à la fin du premier siècle lorsque nous disposons de la collection des 27 livres que nous appelons aujourd'hui le Nouveau Testament. Et combien de personnes ont été appelées, ont reçu le Saint-Esprit de Dieu, ont vécu leur vie, sont mortes, ont été enterrées dans l'attente et l'espoir de la résurrection avant que cela devienne une réalité. C'est un point très important. Lorsque Paul écrit à Timothée dans 2 Timothée 3, versets 15 et 16, il dit, 2 Timothée 3, versets 15 et 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile à la doctrine. » Le Nouveau Testament n'était pas encore une réalité. Paul était en train d'écrire sa dernière épître à Timothée à ce moment-là. Je me souviens qu'à l'école primaire, à l'école élémentaire pour vous, à l'école primaire pour moi, si je me souviens bien, nous avions une instruction religieuse. Si c'était le cas, qu'est-ce qu'on nous donnait? Une copie du Nouveau Testament et les psaumes? Parce que les psaumes étaient tout ce qui était valable dans l'Ancien Testament. Et parfois, c'était un peu mieux. C'était les psaumes et les proverbes. Donc, nous allons nous pencher sur ces termes que nous utilisons aujourd'hui. Les gens pensent à une nouvelle alliance. Et ils pensent immédiatement qu'elle remplace l'ancienne alliance. Sinon, pourquoi l'appellerait-on la nouvelle alliance? Pourquoi l'appellerait-on la nouvelle alliance? Eh bien, vous avez reçu une petite feuille de papier. Quelqu'un d'autre a besoin d'une feuille de papier? Sauf pour jouer au tic-tac-toe? Bon. Vous avez une feuille de papier avec 9 petites cases. Et nous allons les remplir au cours du sermon. Vous apprendrez un peu de grec et peut-être même un peu d'hébreu au cours du sermon d'aujourd'hui. Dans la seconde cellule de la colonne de gauche, je voudrais que vous mettiez le mot français « nouveau ». Et dans les deux cellules à côté, nous allons ajouter deux mots grecs. Car vous voyez, le mot « nouveau » dans la Bible est traduit à partir de deux mots grecs totalement différents. Alors, qu'entendez-vous par « nouveau » ? Le premier mot que j'aimerais que vous inscriviez dans la colonne à droite du mot « nouveau » est le mot « néos », N-E-O-S, qui donne néo-conservateur ou architecture néo-classique. C'est un mot que vous reconnaîtrez. Il signifie nouveau. Mais il signifie nouveau d'une manière particulière. Il signifie nouveau en termes de temps. Peut-être qu'un meilleur terme serait frais. Donc, vous avez un nouveau gâteau. Il vaut mieux que ce soit un gâteau néos, n'est-ce pas? Il a intérêt à être frais. Ou bien nous parlons d'un bébé, un nouveau-né, un néos bébé ou un néos-né. Maria et Derek sont sur le point d'avoir un bébé néos, n'est-ce pas? Ils ont déjà un bébé. Mais quand le nouveau bébé arrivera, le premier ne sera plus le nouveau bébé. Il n'aime probablement pas qu'on l'appelle bébé, de toute façon. Je sais que certaines personnes utilisent le terme bébé d'une manière différente, comme un terme d'affection envers leur femme. Mais nous parlons de nouveau pour désigner un nouveau-né, un nouveau bébé. Dans la langue grecque, nous parlerions d'un bébé néos, parce que cela dépend beaucoup du temps. Ou à avoir avec le temps, les bébés grandissent. Ma mère m'a récemment envoyé une photo de moi datant d'il y a très longtemps. Je ne sais pas où elle l'a trouvée, mais elle l'a trouvée, l'a scannée et me l'a envoyée. Et oui, j'étais le néos de la famille à ce moment-là. Nous avons donc ce terme « néos ». Il s'agit de quelque chose de très sensible au temps. L'idée de fraîcheur l'exprime très bien. Maintenant, le mot que je veux que vous mettiez dans la troisième colonne à droite est un mot qui va vous poser quelques problèmes d'orthographe. Il s'agit de kainos, K-A-I-N-O-S, K-A-I-N-O-S, kainos. Et vous ne confondrez jamais les mots néos et kainos, car ils ont des usages totalement différents. Le concept de kainos désigne quelque chose qui est inutilisé. On peut dire que c'est nouveau. Je vais vous donner un bon exemple. Lorsque notre fils a commencé à apprendre à conduire une voiture, nous nous sommes dit, s'il apprend à conduire une voiture, il devra aussi apprendre à la réparer. Il se trouvait qu'il y avait un jeune étudiant à Big Sandy, au Texas, qui vendait une très belle petite MGB blanche. Nous avons pensé que ce serait une voiture idéale pour que notre fils apprenne à se servir d'une clé à molette, d'un tournevis et d'autres choses de ce genre, qu'il comprenne comment fonctionnent les choses mécaniques. Parce que c'est une voiture anglaise et que les MGB ont toujours besoin de réparation. Cela allait donc bien l'occuper. Et bien sûr, il ne fallait pas attendre longtemps avant que la voiture ait besoin d'un nouveau démarreur. Nous sommes donc allés tout de suite chez le concessionnaire de Kansas City, qui stockait des pièces pour toutes ces voitures anglaises. Et nous voulions un nouveau démarreur pour la voiture. Il est finalement arrivé, emballé dans un beau papier huilé, comme il l'avait été à la sortie de l'usine. Mais quand avait-il quitté l'usine? Il avait probablement quitté la chaîne de production de Lucas Industries en Angleterre avant que notre voiture ne soit assemblée. Et nous voilà 13 ans plus tard avec un nouveau démarreur. Ce n'était pas un démarreur frais. Il avait peut-être 20 ans d'âge. Mais il était neuf parce qu'il n'avait pas été utilisé. Et contrairement à la langue française, la langue grecque fait la différence entre ces deux concepts et ne les mélange pas. Elle ne veut pas que vous les mélangiez. Ainsi, le deuxième mot grec traduit par « nouveau » en français est « kainos », le concept d'être inutilisé par opposition à « frais ». Si vous voulez aller à la ligne supérieure au-dessus de « néos », vous pourriez écrire « lié au temps » ou « dépendant du temps ». Et au-dessus de « kainos », comme il n'y a pas de relation au temps, inscrivez simplement « inutilisé ». Pour vous en donner un bon exemple, lors de la Pâque, nous lisons Jean 13, verset 34, où le Christ dit, Jean 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » La musique spéciale d'aujourd'hui s'intitulait « Dieu a tant aimé le monde ». Jésus-Christ disait aux disciples, « Vous devez vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous allez apprendre un peu de ce qu'est l'amour de Dieu. » Il disait que c'était un commandement nouveau. Combien de personnes sont mortes en pensant que Jésus-Christ avait créé un 11e commandement? Désolé, mes amis. Jean n'a pas utilisé le mot « néos ». Il utilisa « kainos » parce qu'il s'agissait d'un commandement inutilisé de la part des disciples. Eh bien, lisez-le. Allez à l'Évangile de Luc. Que font-ils? Ils se disputent entre eux lors de la Pâque pour savoir qui serait le plus grand parmi eux, n'est-ce pas? Il y a de la concurrence. Je suis meilleur que toi. Et lorsque la femme de Zébédée vient demander une place spéciale pour Jean et Jacques dans le royaume, ils sont tous remplis d'une juste indignation. Pour qui vous prenez-vous? La vie des apôtres montre qu'ils ne s'aimaient pas vraiment les uns les autres comme le Christ les aimait. Et c'est très clairement le cas. Il pouvait se prendre à la gorge et chercher à prendre le dessus sur l'autre très rapidement. Ils ont dû comprendre que l'attitude qu'ils ont affichée le jour de la Pentecôte en 31, celle d'être d'un seul accord, fut une transformation remarquable de ces 11 disciples, querelleurs, qui étaient en proie à la discorde. Ils étaient changés parce que maintenant ils utilisaient quelque chose qu'ils n'avaient jamais utilisé auparavant. C'est pourquoi ici, dans Jean 13, le Christ souligne ce point. Il est intéressant de noter qu'un passage particulier des Évangiles nous aide à voir ces deux mots utilisés ensemble. Matthieu, chapitre 9, verset 14. Matthieu 9, verset 14. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? » Et Jésus leur répondit au verset 17, Matthieu 9, 17, « On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mettons-nous du vin non utilisé? Non, ils mettent du vin néos dans des outres kénos. Ils mettent du vin frais dans des outres non utilisées. Dans le cas contraire, si vous utilisez une outre usagée, elle a perdu toute son élasticité. Au fur et à mesure que le vin fermente et se développe, il étire tellement cette outre que si elle n'a pas d'élasticité, elle se rompra. Et tout sera perdu et gaspillé. L'idée était donc que ce n'est pas une outre néos qui est importante, ce n'est pas la fraîcheur d'une outre. C'est le fait que la peau n'ait jamais été utilisée comme outre auparavant. C'est cela qui est important. Jésus disait donc qu'on ne met pas du vin néos dans de vieilles outres, de peur que les outres ne se brisent. Ils mettent du vin néos ou frais dans des outres kénos ou inutilisées. Et tout se passe à merveille. Et après quelques semaines, vous pouvez boire du vin lorsqu'il est prêt. La Bible établit donc clairement la différence entre les deux mots traduits par « nouveau ». En lisant la langue française, nous passons facilement par-dessus cette différence et ne comprenons pas ce qui est dit. J'aimerais changer de sujet un instant et expliquer un autre aspect des Écritures. J'aimerais que nous allions à Matthieu 1, verset 1. Matthieu 1, verset 1. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà entendu dans le cadre d'une étude biblique, mais permettez-moi de vous le répéter. Matthieu 1 est un chapitre par-dessus lequel la plupart d'entre nous sautons. Qui a envie de lire tous ces noms? Vous le faites à votre propre détriment, car ces noms ont une signification. Toutes les Écritures ont été inspirées par Dieu et sont utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que vous et moi soyons pleinement équipés pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et cela inclut les 17 premiers versets de Matthieu 1, n'est-ce pas? Ainsi, nous avons dans Matthieu 1, verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Si je présentais un article à M. Smith pour l'une des publications de l'Église avec une telle introduction, il me serait probablement renvoyé avec la mention « Veuillez réécrire l'introduction » parce que nous n'écrivons pas de cette manière de nos jours. Pourtant, c'est ainsi que Matthieu fut inspiré d'écrire. C'était un monde très différent. Nous avons ici un verset très chargé de signification. Et pourtant, il est si facilement passé sous silence. C'est la 14e fois dans les Écritures que cette expression « livre de généalogie » est mentionnée. 12 fois précédentes se trouvent dans le livre de la Genèse, une fois dans le livre de Nombres, et nous avons ici la 14e fois. Et puis, bien sûr, vous avez 14 générations d'Abraham à David, 14 de David à la captivité à Babylone, et 14 de la captivité à la naissance de Jésus-Christ. Matthieu est donc en train de faire quelque chose. Matthieu est inspiré à faire quelque chose ici d'une manière très constructive. Maintenant, nous pouvons comprendre que Jésus-Christ soit défini comme le fils de David. Nous comprenons toutes les prophéties concernant sa qualité de fils de David et son rôle en tant que Messie. Nous comprenons tout cela. Mais Matthieu poursuit en définissant David et le Christ en termes d'Abraham. Pourquoi ferait-il cela? Ainsi, Jésus-Christ est d'abord défini comme étant le fils de David, qui est ensuite défini comme étant un fils d'Abraham. Il convient de se demander, pourquoi le Christ est-il défini en fonction de David et d'Abraham? Abraham est un personnage très important dans le Nouveau Testament. Il est appelé le Père des fidèles. Il est appelé l'ami de Dieu. Que faut-il dire d'autre au sujet de cet homme? Ces petites phrases disent tout, n'est-ce pas? Ce sont des phrases profondes. Nous aimerions que l'Éternel ou le Père dise cela de nous, n'est-ce pas? J'espère que c'est le cas, qu'il peut faire des compliments incroyables à notre sujet. Abraham reçoit donc des éloges que la plupart d'entre nous envieraient. Être envisagé et apprécié par le Père de la manière dont Abraham est mentionné serait une consécration à laquelle il faudrait aspirer. Cela ne fait aucun doute. Matthieu fournit un certain nombre d'informations relatives à Abraham. Si nous nous rapportons à Matthieu 3, nous constatons que Jean-Baptiste utilisa le rôle d'Abraham pour parler de la repentance et du baptême au peuple de Judée. Et bien sûr, dans Matthieu 3, verset 7, il concentra son attention sur les pharisiens et les sadducéens qui venaient à son baptême. Il leur dit au verset 7, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Et comme si cela ne suffisait pas, il dit, « Ne pensez pas que vous pouvez revendiquer Abraham comme votre père et que tout ira bien avec Dieu. » Car il dit au verset 9, « Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Puis il leur dit au verset 10, « Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. » Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Que dit donc Jean à propos d'Abraham? Il leur dit deux choses. Les gens pensaient que tout était déjà acquis parce qu'ils étaient descendants d'Abraham. Ils pensaient que la descendance physique d'Abraham était tout ce qui comptait vraiment aux yeux de Dieu. Jean dissipa cette notion très rapidement et avec beaucoup de force. Mais que disait-il d'autre au sujet d'Abraham? Il leur disait aussi qu'Abraham était connu pour ses fruits. Et si vous voulez être un enfant d'Abraham, vous devez produire des fruits, tout comme Abraham a produit des fruits. Cela ne laisse aucun doute. Abraham a produit des fruits de piété. Et si vous prétendez être un enfant d'Abraham, vous devez également produire des fruits de piété, tout comme Abraham. Sinon, vous serez abattu, broyé et jeté au feu. Nous trouvons Jésus lui-même réitérant ce point dans Matthieu 7. Vous pouvez en prendre note dans Matthieu 7, versets 15 à 20. Matthieu 7, versets 15 à 20. « Et Jésus termine ici en disant au verset 20, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » C'est la preuve de l'état d'une personne. Il y a donc une responsabilité de produire du fruit. Cela devient d'une très grande importance. Dans un autre chapitre, celui de Matthieu 8, Jésus lui-même présente un scénario impliquant Abraham, Isaac et Jacob. Quel est ce scénario? Ils sont dans le royaume de Dieu. Au verset 5, il y a ce centenier qui vient voir Jésus à Capernaüm et lui demande de guérir son serviteur. Jésus-Christ lui dit au verset 7, « J'irai et je le guérirai. » Et au verset 8, le centenier répond, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. C'est tout ce qu'il faut, dis simplement sois guéri, c'est tout ce qui est nécessaire. » Et bien sûr, au verset 10 et 11, le Christ répondit, « Et après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Jésus parlait bien sûr de la résurrection. Les gens viendront s'asseoir avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume. Il ne parle pas de la résurrection physique d'Abraham. Il parle d'Abraham ressuscité lors de la résurrection à la vie spirituelle, la première résurrection, comme nous l'appelons. Et en conséquence, faisant partie du gouvernement de Dieu avec son fils, Isaac et Jacob. Puis Christ continue au verset 12 et dit, « Mais les fils du royaume, ceux qui pensaient avoir réussi, seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Donc, cet aspect de la relation avec Abraham est très, très important dans l'Évangile de Matthieu, en termes de ce que le Père nous révèle. Qu'est-il en train de construire? Je pense que M. Weston y a fait allusion dans un sermon qu'il a donné récemment, l'importance de ce qui est dit dans Genèse 18, où l'Éternel et deux anges sont venus voir Abraham avant la destruction de Sodome et Gomorre. Au début de Genèse 18, Abraham et Sarah se voient promettre un fils qui s'appellera Rire. Vous avez donc appris un peu d'hébreu aujourd'hui. Si vous rencontrez quelqu'un qui s'appelle Isaac, essayez de rire poliment. Mais c'est ce que son nom signifie. Et bien sûr, la plupart des gens aujourd'hui ne l'utilisent pas parce qu'il signifie rire. Ils pensent qu'il s'agit simplement d'un joli nom biblique, n'est-ce pas? Mais en hébreu, rire se dit Isaac. Isaac! Après avoir mangé avec Abraham et Sarah, l'Éternel et les anges se mirent donc en route vers Sodome et Gomorre. Et au verset 17, un point très important, Genèse 18, verset 17, l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? » Je veux qu'Abraham comprenne ces choses. Et au verset 18, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. « Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Ici, Dieu félicite Abraham, car il dit qu'un enfant d'Abraham est quelqu'un qui peut être instruit dans la voie de l'Éternel. Au verset 19, « En pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites, les vrais enfants d'Abraham gardent la voie de l'Éternel. Ils pratiquent le droit et la justice. » Et nous allons maintenant nous pencher un peu plus sur l'hébreu, car l'expression « droit et justice » est en fait, pourrait-on dire, un résumé de l'esprit de la loi de Dieu. Le mot hébreu pour droit est tzedaka et pour justice est mishpat. Et ces mots sont utilisés seuls de nombreuses fois. Mais il y a quelque 66 fois où ils sont utilisés ensemble dans les Écritures, d'une manière remarquable. Et ils parlent toujours, pourrait-on dire, de la totalité du mode de vie de Dieu. C'est très important. On pourrait dire qu'ils englobent tout l'esprit de la loi de Dieu. C'est pourquoi Abraham aura une place dans le royaume de Dieu, parce qu'il a compris l'esprit de la loi de Dieu et qu'il a été capable de vivre selon cette loi. Les enfants d'Abraham doivent être définis comme ceux qui ont aimé le mode de vie de Dieu et qui ont vécu selon l'esprit du mode de vie de Dieu. C'est une déclaration très forte à propos d'Abraham. Vous serez peut-être surpris d'apprendre le fait que Matthieu 1:1 parle de Jésus-Christ, de David et d'Abraham. C'est parce qu'ils sont les seuls individus dans les Écritures à qui cette norme s'applique. Abraham allait enseigner ce mode de vie à ses enfants. David a vécu ce mode de vie. Et le Messie va vivre ce mode de vie. Personne d'autre, quelle que soit la qualité de sa vie en accord avec la parole de Dieu, qu'il s'agisse de Moïse ou de l'un des prophètes, personne d'autre ne se voit accorder cette mention dans les Écritures. Si vous notez 2 Samuel 8, verset 15, 2 Samuel 8, verset 15, et le passage correspondant dans les Chroniques, 1 Chronique 18, verset 14, 1 Chronique 18, verset 14, ils disent exactement la même chose. 2 Samuel 8, verset 15, « David régna sur Israël et il fit droit, tzedaka, et justice, mishpat, à tout son peuple. C'était la norme de son règne, tout comme Abraham enseigna cette norme à ceux de sa famille. » Salomon, le fils de David, c'est veut dire qu'il devait gouverner de cette manière. Il l'a fait pendant un certain temps, puis il est tombé. Cette reconnaissance n'a jamais été accordée à Salomon. La seule autre personne, en dehors d'Abraham et de David, à recevoir cette reconnaissance est le Messie, comme on peut le voir dans Ésaïe 9, Ésaïe 9, verset 5, où Ésaïe nous dit « Un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ce verset est bondé d'informations et ce n'est pas nécessairement la façon dont l'hébreu devrait être traduit, mais ce sera pour un autre jour. J'aimerais que vous vous concentriez sur le verset 6. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume l'affermir et le soutenir par le droit. Sadaka et par la justice, Mishpat. J'utilise les termes hébreux ici parce que les traducteurs changent toujours les termes. Ils ne sont jamais cohérents. Mais en réalité, c'est la même chose qui est utilisée ici, qui est utilisée dans Genèse 18, verset 19. Le droit et la justice sont les sceaux du Fils de Dieu, le Messie. David et Abraham, le père des fidèles, était également caractérisé par cela. Il est donc dit ici qu'il établira son gouvernement avec droiture et justice. Et comme je l'ai dit, les traducteurs embrouillent ce terme de temps en temps. Ainsi, Matthieu 1 parle de la vraie généalogie qui préoccupe Dieu le Père. Les vrais descendants d'Abraham, les personnes qui produiront des fruits spirituels, dans leur vie comme Abraham l'a fait, comme David l'a fait, comme le Messie l'a fait. Abraham fut reconnu par ses fruits, et c'est pourquoi il jouera un rôle de premier plan dans le royaume de Dieu. Nous pouvons l'admirer en tant que modèle d'être humain, d'une manière profonde, à cause de sa droiture et de sa justice. Cela fait partie de l'identité spirituelle. Si vous et moi avons la droiture et la justice dans notre vie, nous pouvons nous identifier comme étant un enfant d'Abraham. Et bien sûr, cela exige que je produise du fruit dans ma vie. Abraham a donc sa place dans le royaume de Dieu. Quelqu'un n'est-il pas d'accord avec cela? Et je vous pose la question, de quelle alliance Abraham faisait-il partie? Ce n'était certainement pas de l'ancienne alliance, parce que l'ancienne alliance n'est arrivée que 430 ans plus tard. Et pendant que vous pensez à Abraham, repensez à Noé, à Enoch, à Abel. Vous pourriez même vous arrêter et considérer sous quelle alliance Adam et Ève auraient été placés s'ils avaient mangé de l'arbre de vie. Or, la Bible, dans Jérémie 31, verset 31, parle de la nouvelle alliance, mais elle le fait d'une manière particulière. Nous ne parlons pas ici de Néos ou de Kénos, car il s'agit de la langue hébraïque et non de la langue grecque, et l'hébreu n'a pas cette nuance que la langue grecque possède. Jérémie 31, verset 31 nous dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Il devait s'agir d'une alliance nouvelle, car il y en avait déjà une. Ils en avaient conclu une au mont Sinaï. L'idée d'une nouvelle alliance est donc très bonne, très appropriée. Ils avaient déjà une ancienne alliance. Mais si nous en venons à la manière dont Paul utilise cette écriture dans Hébreux 8, nous devrions nous demander quel mot, se trouvant sur votre papier, Paul a-t-il utilisé et qui fut traduit plus tard en français par le mot « nouveau » Était-ce « néos » ou « kénos » Je ne vous demanderai pas de lever la main. Permettez-moi d'accélérer les choses en vous le disant, c'est Kénos. C'est une alliance non utilisée. C'est quelque chose qui n'a pas été utilisé par d'autres. C'est un point très important que nous devons garder à l'esprit. L'alliance dont Paul parle est décrite comme une alliance inutilisée. Elle n'a pas été utilisée par les gens, à l'exception d'un très petit nombre que l'Éternel a appelé. Revenons à notre feuille de papier. Dans la troisième ligne, dans la colonne de gauche, vous pouvez écrire le mot « ancien », parce que nous regardons l'ancien et le nouveau, n'est-ce pas? Ou « nouveau » et « ancien ». Et, surprise, surprise, dans la langue grecque, il y a deux mots qui sont traduits par le mot français « ancien ». Et les deux sont représentés dans le Nouveau Testament. Le premier mot est un mot que vous connaissez peut-être un peu. Il s'agit du mot paleios. P-A-L-A-I-O-S. P-A-L-A-I-O-S. C'est de lui que vient le terme paléo. Et combien de vous ont suivi un régime paléo récemment? Savez-vous pourquoi on l'appelle un régime paléo? Parce que personne ne l'utilise depuis très très longtemps. Il s'est avéré inefficace. Sauf que les gens l'adoptent comme une mode. Nous avons donc le mot paléo. On l'utilise plus couramment en termes de style d'écriture. On parle de paléo-hébreu. Il s'agit d'une forme d'écriture hébraïque à laquelle Esdras a mis fin et que les Samaritains ont repris par la suite. Esdras remplaça les lettres de la langue hébraïque par la forme des lettres utilisées en araméen. Il n'a pas changé la langue, mais la façon dont les lettres apparaissaient sur la page. Si nous avions un PowerPoint aujourd'hui, je pourrais vous montrer la différence entre l'hébreu moderne ou l'hébreu biblique et le paléo-hébreu, et nous serions très rapidement capables de l'identifier parce que le paléo-hébreu ressemble à des pattes de mouche. Probablement parce que lorsque vous écrivez avec un ciseau sur un morceau de roche, C'est ce qui arrive. C'est ce que l'on appelle le paléo-hébreu parce qu'il n'est plus utilisé. Il est obsolète. Nous retrouvons cette expression dans Hébreux 1. Hébreux chapitre 1, où Paul parle de Jésus-Christ. Au verset 8, Hébreux 1, verset 8, « Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Ainsi l'équité, cette idée de justice que nous avons vue avec Abraham, est une caractéristique du royaume de Dieu. » Au verset 9, « Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Donc tu aimes l'équité, vous pourriez dire la justice. » Verset 9 à 11, « Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Ils deviendront des paléos. Ils prendront fin. Ils ont une vie physique limitée. Ils vieilliront tous paléos comme un vêtement. » Et au verset 12, « Ils seront changés, mais toi, tu restes le même. » Ainsi, Paul utilise cet aspect d'ancien d'une manière particulière, montrant la corruptibilité de certaines choses. Elles ne durent pas éternellement. L'autre mot qui est utilisé est un mot que vous reconnaîtrez. Ou peut-être reconnaîtrez-vous les mots qui en sont dérivés, car le mot est archaios, A-R-C-H-A-I-O-U-S, A-R-C-H-A-I-O-U-S. Et immédiatement, la plupart d'entre vous passeront à archaïque, et c'est exact. Mais nous ne l'utilisons pas correctement aujourd'hui. Archaios est ancien. Mais ce n'est pas seulement l'aspect d'ancien qui est pris en compte. C'est l'aspect fondamental qui est pris en compte. Voici quelque chose qui est fondamental. Le mariage est archaïque. C'est la fondation d'une société. Nous nous trouvons d'abord dans Genèse 2, n'est-ce pas? Il s'agit donc d'un élément fondamental à la société humaine. La Bible que vous avez sur vos genoux est archaïque. Elle est ancienne. Mais pas seulement parce qu'elle existe depuis un certain temps. Elle est archaïque parce qu'elle est fondamentale. Elle est archaïos. Votre graphique est maintenant rempli, à l'exception du coin supérieur gauche. Lorsque nous parlons de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance, quel mot utilisons-nous? Eh bien, vous devriez déjà avoir deviné le mot « nouveau », c'est « kénos ». C'est donc cette deuxième cellule de droite sur votre page qui parle du nouveau. Lorsque nous parlons de l'Ancienne Alliance, Paul utilise le mot « paléos ». Il s'agit de quelque chose qui a une durée de vie limitée. Elle ne durera pas éternellement. Ainsi, le mot grec « kénos » a été utilisé par Jésus lorsqu'il a parlé aux disciples lors de la Pâque. Ainsi, Paul, comme nous le voyons dans Hébreux 8, verset 13, citant Jérémie 31:31, Hébreux 8, verset 13, en disant « une nouvelle alliance, kénos », il a déclaré la première ancienne, « palios ». Or, ce qui est ancien, « palios », ce qui a vieilli, est près de disparaître. Elle a une durée de vie limitée. Ainsi, les deux mots que Paul utilise sont le mot de droite pour nouveau et le mot de gauche pour ancien. Maintenant, pour ajouter un peu de complexité à tout cela, Paul parle de cette nouvelle alliance et les gens ne réalisent pas ce que le mot grec signifie vraiment. Nous avons une nouvelle alliance. Mais « nouvelle alliance » n'est pas le seul terme que Paul utilise pour décrire ce que nous appelons la « nouvelle alliance ». Si vous ne me croyez pas, reportez-vous à Hébreux 13, verset 20. Hébreux 13, verset 20. Paul dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable, complet, de toutes bonnes œuvres. Paul décrit donc une alliance éternelle. Une fois de plus, une alliance qui n'est pas limitée dans le temps. Certaines traductions utilisent le mot « perpétuel ». En fait, Paul paraphrase Ézéchiel 37, versets 24 à 26. Ézéchiel 37, versets 24 à 26, que je vous laisse le soin de lire. Et vous constaterez que Paul introduit ici trois éléments d'Ézéchiel 37, 24 à 26. L'idée d'un berger, pasteur, d'une alliance éternelle et d'une alliance de paix. Ces trois éléments sont communs à Hébreux 13, 20 et à Ézéchiel 37, versets 24 à 26. Il est intéressant de noter que Jérémie parle également d'une alliance éternelle. Vous pouvez noter Jérémie 32, verset 40. Jérémie 32, verset 40. Ou peut-être Ésaïe 61, verset 8. Ésaïe 61, verset 8. Nous n'avons pas le temps de les examiner tous. Mais lisez surtout Genèse 17, verset 7. Car quelle était la nature de l'alliance que l'Éternel a conclue avec Abraham? C'était une alliance perpétuelle, éternelle. Ce n'était pas une alliance ici aujourd'hui et disparue demain. C'était une alliance éternelle. C'est une alliance qui n'était pas limitée dans le temps, de quelque manière que ce soit. Genèse 17, verset 7. L'Éternel dit à Abraham, « J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle. » En vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Ainsi, cet aspect d'une alliance éternelle apparaît même dans le livre de la Genèse. Notre Père a-t-il plusieurs alliances éternelles? Je ne pense pas que ce soit ce dont la Bible parle. Je pense qu'il y a un sens de continuité. Nous pouvons parler de nombreuses alliances dans la Bible, comme l'alliance avec David et l'alliance du mariage, mais en fin de compte, quand on les suit suffisamment loin dans le temps, elles se rejoignent toutes dans le royaume de Dieu. Ainsi, l'alliance éternelle que l'Éternel a offerte à Abraham est exactement la même que celle dont nous parle Paul et qui est finalement promise à Israël et aux nations dans l'ère à venir. Si je peux paraphraser les commentaires de M. Ames dans son sermon « Pionnier de l'Alliance », Abraham était un pionnier de l'Alliance. Tout comme vous et moi sommes appelés à être des pionniers de l'Alliance de manière très puissante. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire? Comme je l'ai déjà mentionné, lorsque les commentateurs parlent de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance, ils tentent de définir la nouvelle en fonction de l'ancienne. La façon dont ils visualisent ceci, c'est qu'est-ce que je peux garder de l'ancienne vers la nouvelle et qu'est-ce que je peux rejeter? C'est comme cela qu'ils fonctionnent. Notre ami à Pasadena en 1973 était tout à fait de cet avis, comme beaucoup d'autres personnes par la suite. Il n'envisageait pas qu'Abraham avait fait partie de cette alliance éternelle avec Dieu, tout comme Enoch, Noé ou Abel. Quelle était l'alliance qui devait réellement, en fin de compte, être offerte à l'humanité? Elle fut proposée à quelques personnes, telles qu'à Abraham, Isaac, Jacob, Enoch, Noé et Abel. Puis l'Éternel pourvut une ancienne alliance, une alliance provisoire pour une période de 1500 ans. Il a ensuite proposé à nouveau l'alliance éternelle aux hommes après le sacrifice de son Fils. L'Église dont nous faisons partie, vous et moi, est fondée sur cette alliance. Nous sommes les pionniers de cette nouvelle alliance, tout comme Abraham l'était. Mais retournons un peu la situation et mettons les choses au point. L'ancienne alliance est définie par rapport à la nouvelle alliance. Quelque chose se trouvait dans l'ancienne alliance parce qu'il y avait déjà un équivalent dans l'alliance éternelle. On ne choisit pas ce que l'on veut de l'ancienne alliance pour l'inclure dans la nouvelle alliance. C'est l'inverse. Ce qui était dans l'ancienne alliance avait déjà sa place dans l'alliance éternelle. Elle met le monde théologique sans dessus dessous. Voulez-vous que je vous le prouve? Pourquoi le sacerdoce était-il dans l'ancienne alliance? Parce qu'avant lui, il y avait le sacerdoce de Melchisédek, le sacerdoce éternel de Melchisédek. Par conséquent, l'ancienne alliance devait avoir un sacerdoce, le sacerdoce lévitique d'Aaron. Pourquoi Israël devait-il avoir un tabernacle? Parce que l'alliance éternelle a un tabernacle au trône de Dieu. Vous comprenez? C'est très important. Alors, pourquoi y avait-il des sacrifices? Parce qu'il y a un autel d'offrande dans le tabernacle de Dieu. Lisez Hébreux 8 et 9. Il y avait une Pâque qui fut immolée depuis la fondation du monde. N'est-ce pas? 1 Pierre 1, verset 19 à 21. Une des choses que les gens veulent se débarrasser dans l'ancienne alliance est la peine de mort. Lisez Hébreux 10. Si vous mourrez sous l'ancienne alliance, vous avez l'espoir d'une résurrection. Si vous mourrez sous la nouvelle alliance, si vous mourrez sous le châtiment de la nouvelle alliance, il n'y a plus d'espoir. C'est la troisième résurrection. C'est la deuxième mort. Un point, c'est tout. Il y avait donc une peine de mort dans l'ancienne alliance parce qu'il y a une peine de mort si l'on ne respecte pas l'alliance éternelle. Vous n'aimez pas les clauses de l'alliance? Très bien. Alors, il y a une conséquence pour vous. La peine de mort. Pour toujours. Paul l'explique très clairement dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10. Ainsi, ce qui s'est retrouvé dans l'Ancienne Alliance ne s'y est retrouvé que parce que le Père et la Parole l'avaient déjà établi comme faisant partie de la relation d'alliance qu'ils allaient avoir. Comme je l'ai déjà dit, cet homme qui a quitté l'Église en 1973 en disant « Vous ne pouvez pas me prouver que vous devez payer la dîme dans le cadre de la Nouvelle Alliance ». D'accord, alors où apprend-on pour la première fois ce qu'est la dîme? Genèse 14, Melchisédek et Abraham, ou Abraham, comme il s'appelait à l'époque. La dîme avait déjà été instituée bien avant l'établissement de l'ancienne alliance. Elle faisait partie, acceptée et attendue, de la relation entre une personne soumise à l'alliance et son Dieu. Vous pouvez voir comment même Jacob comprenait un peu ce qu'était la dîme. Donc, où en arrivons-nous? Eh bien, où avons-nous appris l'existence du sabbat? Genèse 2, n'est-ce pas? Au début de l'année, M. Weston a donné un sermon au sujet des 10 commandements, des aliments purs et impurs, du jour du sabbat et sur le fait que tous ces éléments existaient avant l'établissement de l'ancienne alliance. C'est tout à fait vrai. Le sabbat fut intégré à l'ancienne alliance parce qu'il faisait déjà partie de l'alliance éternelle et qu'il était prévu qu'il en soit ainsi. Qu'en est-il des jours saints? Une autre chose dont les gens aiment se débarrasser dans l'ancienne alliance, ils aiment les laisser de côté. Et M. Weston, dans ce même sermon, a dit concernant les jours saints qu'il n'y avait pas de déclaration explicite au sujet de l'observation de ceux-ci avant le mont Sinaï. Et c'est tout à fait exact. Mais il y a de nombreuses allusions aux jours saints, à commencer par Genèse 1. Genèse 1, verset 14. Genèse 1, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, saisons, les jours et les années. Et j'ai entendu de par le passé des sermons donnés par les ministres au sujet des saisons de notre vie. L'été, l'automne, l'hiver, printemps, tous très appropriés. Mais le problème, c'est qu'ils ont utilisé ce verset. Et désolé, mes amis, il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas des quatre saisons de l'année. Parce que le mot traduit par « époque » ici est le même que celui qui est utilisé dans Lévitique 23, verset 4, pour les assemblées de l'Éternel. En d'autres termes, les fêtes. Point final. Les fêtes sont donc établies dans Genèse 1, dans le cadre de la recréation de la terre par l'Éternel. Nous avons fait référence à Abraham ou Abraham et Melchisédek, Genèse 14. J'ai hâte de poser la question à Melchisédek un de ces jours. Qu'a fait apporter Melchisédek, le sacrificateur? Il fit apporter du pain et du vin pour rencontrer Abraham. Monsieur Weston a tout à fait raison, car le mot hébreu pour le pain ici est lechem, et non matzah. C'est un mot générique pour le pain. Ce n'est pas du pain sans levain qui est mentionné ici. Mais pourquoi apporte-t-il du pain et du vin? C'est une question que je me pose au fond de mon esprit. Qu'en est-il de Genèse 15, où l'Éternel dit à Abraham que ses descendants seront en captivité pendant 430 ans? Puis dans Exode 12, il est dit que le jour même où Israël est sorti d'Égypte a été le point culminant de ses 430 ans. Qu'est-ce que cela signifie par rapport à l'événement de Genèse 15? Ce fut la soirée mémorable, originale. 430 ans auparavant. Genèse 19. Les anges vont voir Lot à Sodome. Et que leur sert-il à manger? De la matzah. Et vous savez tous ce qu'est la matzah, n'est-ce pas? Vous en avez tous mangé avant aujourd'hui et vous la gardez pour une période particulière de l'année. C'est le pain sans levain. Tout au long de la Genèse, nous avons donc ces indices, pourrait-on dire, qui abordent l'aspect des jours saints sans jamais être explicite, mais qui nous taquinent. Tous ces éléments sont présents. Je vous mets donc au défi, frères et sœurs, de vous demander, qu'entendez-vous au juste par nouvelle alliance? D'après ce que je peux constater, très peu de personnes en dehors de l'Église de Dieu ont une appréciation appropriée de la nouvelle alliance. Pour eux, c'est la liberté de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils le veulent, sans aucune instruction ou direction de la part de notre Père. Mais en réalité, tous les aspects qui se trouvent dans l'Ancienne Alliance ne sont là qu'en raison du fait que notre Père et la Parole avaient déjà établi ces éléments dans le cadre de la relation d'alliance éternelle avec Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Enoch et Abel. À bien des égards, il conviendrait de l'appeler l'Alliance éternelle plutôt que la Nouvelle Alliance. Car nous ne comprenons pas le mot « nouveau » comme les Grecs. Il s'agit d'une alliance spirituelle. C'est une alliance par laquelle la loi de Dieu est intériorisée, par laquelle nous garderons la voie de l'Éternel, comme l'Éternel le commanda à Abraham dans Genèse 18, verset 19. Nous garderons la voie de l'Éternel pour accomplir le droit et la justice, pour faire aboutir le plan de Dieu pour l'ensemble de sa création. C'est ce que signifie faire partie de l'Alliance éternelle. ce que signifie faire partie de la nouvelle alliance. Il s'agit d'une alliance qui nous permet de faire partie de son royaume, afin que nous puissions rejoindre ceux que nous avons mentionnés et ceux que Paul énumère dans Hébreux 11, qui, par la foi, ont pu entrer dans ce royaume. Pas encore, mais la promesse leur fut donnée. À quoi cette foi était-elle associée? Elle était associée au mode de vie que l'Éternel, le Père, avait établi pour eux. C'est ainsi que l'Éternel dit à Abraham, Genèse 18, verset 19, « Car je l'ai choisi afin qu'il leur donne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, l'alliance éternelle. » Abraham nous donna l'exemple. Il était un être humain comme vous et moi, avec toutes les faiblesses et tous les défauts humains que nous connaissons bien. Pourtant, avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu, il a pu les surmonter. Il a pu développer les fruits que son père recherchait, et grâce à cela, il a une place dans le royaume. Cela n'enlève rien à Jésus-Christ. Car comment Abraham a-t-il appris ces choses? Qui lui a enseigné? Melchisédek, que nous connaissons comme étant celui qui est devenu Jésus-Christ. C'est donc Jésus-Christ qui lui a appris à porter du fruit. Abraham écouta cet ami, et en fin de compte, toute la gloire revient à Jésus-Christ et à son Père. La Bible présente Abraham dans ce rôle particulier de père physique, mais seulement si nous produisons le fruit. L'ADN spirituel qui vient en ayant le Saint-Esprit de Dieu dans nos vies. Il faut donc se poser la question suivante. Qu'entendez-vous par la nouvelle alliance? Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond que ce à quoi la plupart des chrétiens et des théologiens s'imaginent. C'est une chose à laquelle vous et moi avons le privilège de participer afin de pouvoir régner avec Jésus-Christ.